Nous revoilà dans cette émission de Kiki et Drôle d'Oiseau, et donc du coup on continue avec la chronique de Joël et notre invité du soir, Michael. Et donc après nous avoir présenté les mystères de Jérusalem et Qumran, qui sont donc deux romans, on va partir sur une partie un peu plus scientifique, comme tu disais, et donc du coup vous allez un peu essayer de démêler le vrai du faux, si j'ai bien compris.
Exactement, parce que en fait je me suis posé des questions après la lecture de ces deux livres, de savoir est-ce que en fait ces choses en fait qui sont décrites dans les romans sont des choses réelles ou sont des choses qui viennent qui sont des inventions en fait des auteurs qui fantasment un peu différents faits pour faire avancer leur narration. Donc j'ai préparé tout un tas de questions pour Michael. Mmh. T'es content, hein ?
Ouais, bah oui.
Alors, on va commencer dans les mystères de Jérusalem. Comme je vous l'ai dit, on parle surtout du trésor du temple, et parce que tout le monde veut récupérer ce fameux trésor, qui est donc caché dans 64 caches, et avec des énigmes, etc. Donc, les questions par rapport au trésor du temple que je me suis posé, c'est est-ce que ce fameux rouleau de cuivre avec le récit de ces cachettes et de ce fameux trésor du temple, est-ce que ça déchaîne vraiment les passions et est-ce que ça draine des vrais chasseurs de trésors ou
Oui, absolument. Moi, je me souviens, il y a quelques années, j'ai vécu 2 ans à Jérusalem et je logeais à l'école biblique archéologique française. C'est là qu'il y a l'équipe qui travaille sur les manuscrits et c'est là notamment qu'il y a le spécialiste qui a publié les 2 gros volumes énormes sur le rouleau de cuivre il y a quelques années. Et je me souviens, on était à table un midi dans la cantine en train de manger et il me dit « Oh, j'en ai marre, j'ai encore un chasseur de trésors qui vient me consulter. »
C'est énorme.
Non, c'est exactement le cas. Donc il y a eu une première publication du rouleau de cuivre il y a quelques dizaines d'années et puis il y en a eu une deuxième il y a quelques années seulement. Moi, je me souviens de la cérémonie d'inauguration, mais en tout cas, ces 2 volumes énormes, ça a coûté très cher, il y a eu des financements d'EDF, tout ça, enfin bref. Donc, du coup, je te laisse, pose ta question.
Non, mais vas-y, termine.
Non, enfin voilà, c'est juste pour dire qu'effectivement, il y a des Indiana Jones qui viennent régulièrement et ils se disent, ça y est, je vais trouver le trésor du temple.
Ouais, alors en fait, ma question, c'était dans les mystères de Jérusalem, pour faire la petite minute chauvine, culture générale. Justement, il disait que c'était une équipe d'EDF qui avait restauré le rouleau.
Oui, absolument. Alors ça, c'est vrai. Le rouleau de cuivre, il est en Jordanie. Ça fait partie des rouleaux de la mer Morte qui ne sont pas à Jérusalem. C'est un peu difficile hein, parce que le site de Qumran lui-même, il est au bord de la mer Morte.
C'est à la frontière.
Du côté occidental. Et il est dans la zone qu'on appelle la Cisjordanie, c'est-à-dire à l'intérieur des frontières du futur territoire palestinien, de l'État palestinien, si cet État voit le jour. Et au moment où les manuscrits ont été découverts, on était après la Seconde Guerre mondiale, et il y a un imbroglio politique énorme sur cette région, puisque bon, avant c'est le protectorat anglais, mais après ça il y a le royaume de Jordanie, donc on ne savait pas trop. Donc Qumran lui-même s'est baladé d'une région à l'autre. Et pendant des années, c'était en territoire jordanien. Ce qui fait que les manuscrits qui étaient stockés à Jérusalem, quand ça sentait roussi à Jérusalem, on les a rapatriés à Amman, en Jordanie. Ensuite, on les a ramenés de nouveau à Jérusalem, mais pas tous. Enfin bref. Donc le rouleau de cuivre, il est en Jordanie, il est à Amman. Et quand il s'est agi de le remettre en état, eh bien, effectivement, c'est la Fondation d'électricité de France.
Oh, c'est magnifique.
Cocorico, qui a eu en charge de montrer les prouesses technologiques qui permettaient comme ça de traiter, parce que c'est du cuivre. Donc, EDF, le fil de cuivre, c'est ça, c'est le fil électrique, le fil téléphonique, tout ça. Donc, du coup, ils ont montré, regardez tout ce qu'on sait faire pour remettre en état et faire une imagerie ultra sophistiquée pour permettre de mieux lire le texte.
Formidable.
Et est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est que le rouleau de cuivre?
Ah oui, bah oui.
Final, c'est le rouleau en fait sur lequel il y a les fameuses énigmes.
Non mais c'est vrai que c'est particulier, c'est un rouleau, mais il est sur du cuivre. Alors les rouleaux en principe, les supports d'écriture, c'est plutôt organique. C'est-à-dire ça va être soit animal, c'est de la peau animale, du cuir, enfin voilà, un peu l'ancêtre du parchemin, ou alors c'est du papyrus. Vous avez tous vu des papyrus égyptiens. On prend des tiges de papyrus et puis on les croise et ça fait un support. Donc c'est ça les supports d'écriture et du coup c'est des supports qui sont flexibles, on peut les rouler. Mais de temps en temps, on a droit comme ça à des toutes petites inscriptions sur des supports qui sont du fer ou du cuivre, etc., etc. Mais c'est souvent quelques centimètres. Par exemple, là, je pars la semaine prochaine à Chicago et je vais présenter une petite amulette araméenne inédite qu'un collectionneur m'a donné qui contient des formules magiques.
Mais, trop fort, donc, Harry Potter.
Exactement. Et donc ces petites amulettes, souvent c'est petit, c'est la taille d'une amulette, ça se porte autour du cou, c'est impossible à dérouler. Une fois que c'est roulé, on peut pas le dérouler. Donc quand on écrit sur ce genre de rouleau, c'est qu'on veut pas que le texte soit lu. Et là, le rouleau de cuivre, il est grand, c'est la taille d'un grand rouleau, un peu comme une feuille de papier.
Mais il y a quand même les fameuses 64 énigmes.
Non, mais bien sûr. Non, mais alors à l'intérieur, on décrit les directions qu'il faut prendre, faut faire tant de pas dans telle direction à partir de tel endroit pour trouver toutes les cachettes du trésor du temple. Et il était impossible à ouvrir ce rouleau. Il a fallu y aller à la scie, quoi, pour le couper en tranches, et parce que on peut pas le dérouler, c'est du cuivre.
Et la magie de DF.
Le cuivre s'oxyde. Comment on fait pour lutter contre ça?
Oui, alors c'est ça. Alors donc le rouleau de cuivre, il a été. Alors c'est pas EDF a pas fait le boulot au départ. Le rouleau de cuivre, il a été découvert au milieu du XXe siècle quand on a fouillé les différentes grottes. On l'a trouvé dans la troisième grotte à Qumran, qui est un peu plus au nord, disons, du site. Et voilà, on y est allé, on a scié, on a regardé ce qu'on pouvait. Alors l'avantage, c'est que d'un côté, c'est impossible à dérouler. D'un autre côté, le texte n'est pas écrit à l'encre dessus, contrairement aux autres supports. Quand c'est sur du cuir ou sur du papyrus, on écrit à l'encre. Et l'encre, elle s'efface avec le temps. Et puis les manuscrits, ils se détériorent avec le temps, parce que c'est organique. Alors que là, l'avantage, c'est que c'est du cuivre, donc ça, c'est solide, ça tient bien. Et puis le texte, il est gravé dedans. Donc même si le matériau lui-même a une couche d'oxydation, tout ça, en fait, on peut quand même arriver, ne serait-ce qu'en passant la main ou en utilisant une lumière rasante, on arrive quand même à faire ressortir le relief en fait du texte. Donc on avait quand même pu l'éditer. C'est Joseph Milik avait fait un travail extraordinaire de lecture du texte. Et c'est vrai que quand on a fait toute la rénovation, quand EDF a fait tout le travail de rénovation du manuscrit, ça a permis d'améliorer quelques petits points de lecture à droite à gauche, mais ça n'a pas changé fondamentalement la compréhension qu'on avait de ce rouleau.
D'accord.
Voilà. Alors j'avais encore une question par rapport à ce fameux rouleau. Donc on a parlé du chasseur de trésors. Ils n'ont pas trouvé le trésor pour l'instant.
Bah, écoute, non, pas que je sache.
En tout cas. Donc une autre thèse dans les mystères de Jérusalem, c'est qu'en fait ce trésor, on ne peut pas le trouver. C'est quelque chose de, enfin, c'est un trésor spirituel, etc. Et donc en fait, je me demandais, est-ce que toi, tu penses que c'est effectivement un trésor entre guillemets spirituel ou ésotérique ou que sais-je, ou un vrai trésor avec du vrai or, parce que quand même, les instructions, c'est genre 37 pas depuis la citerne, descendez vers l'ouest.
Oui, bien sûr. Bah, c'est-à-dire que l'interprétation métaphorique, elle a été très vite avancée, précisément parce qu'on sait que d'habitude, le matériau, le fer ou le cuivre, ou des choses comme ça, quand on écrit des textes dessus, c'est essentiellement des formules magiques, des trucs comme ça. Donc c'est très ésotérique. Et on s'est dit, une liste de cachettes, tout ça, enfin bon, on trouvait que c'était un peu gros, quoi. Et du coup, assez vite, on s'est dit, mais en fait, il doit y avoir un sens caché. Et donc, les chiffres, en fait, il y a une symbolique, tout ça. Bon, le seul problème, c'est que personne n'est arrivé à quoi que ce soit de très concluant.
Même pas Michael Langlois.
Non, alors moi, j'ai jamais bossé là-dessus. Non, j'ai jamais travaillé sur ce rouleau. À vrai dire, c'est vrai que ça me tente pas beaucoup. Il y a plein d'autres manuscrits qui m'intéressent, mais celui-là, non, j'ai jamais vraiment passé de temps. De loin, je regarde un petit peu de temps en temps quand quelqu'un écrit quelque chose dessus, en disant tiens, est-ce qu'il y a une théorie intéressante. Mais pour l'instant, il n'y a rien de très concret. Moi, je me dis au final, après tout, pourquoi pas des vraies instructions sur des vraies cachettes. C'est pas stupide, disons, l'idée qu'il y ait un trésor du temple quelque part. Ça me paraît pas complètement stupide, en fait. Alors comme ça, je vais raviver toutes les auditeurs vont se dire, ah bon, mais alors il y a vraiment un trésor, faut absolument qu'on y aille.
Tous les Indiana Jones qui nous écoutent. Let's go.
Et je dis, Émile, si tu m'entends. Émile, c'est celui qui a publié, qui se fait casser les pieds. Alors je dis, Émile, si tu m'entends.
Je suis désolé.
Donc du coup, je vous propose
qu'on fasse une pause.
Ouais, une petite pause là, en attendant la suite donc de ces explications et voilà, d'avoir des réponses à toutes ces questions que Joël s'est posées et peut-être que d'autres des auditeurs qui ont déjà lu ces romans se sont posés. Et donc du coup, on va passer un petit morceau de musique et puis on se retrouve juste après.